Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast littéraire. C'est le numéro de novembre, même si nous sommes déjà en décembre. Comme vous avez peut-être pu le constater sur mes autres réseaux sociaux, je suis vraiment très occupée en ce moment. Je suis pas au top de ma forme et donc du coup, j'ai quand même un petit peu de mal à tenir tous mes engagements, à produire plusieurs vidéos par semaine, à produire un podcast par mois, à poster sur Instagram, notamment sur mon Instagram littéraire, à mettre à jour ma page Patreon. D'ailleurs, merci encore une fois à toutes les personnes qui prennent le temps de me soutenir sur Patreon et qui me soutiennent financièrement. Je sais que c'est pas donné à tout le monde et c'est fortement apprécié de mon côté. Ne croyez pas que je ne le remarque pas et que je ne l'apprécie pas. Au contraire, et je me sens d'ailleurs très coupable de ne pas avoir le temps de mettre à jour et d'enrichir Patreon comme je le voudrais. Mais je dois faire tout ceci et je dois également enseigner à plein temps avec d'ailleurs des heures supplémentaires et ça devient très difficile. Donc je suis désolée pour mon absence relative sur l'ensemble des réseaux sociaux et je suis désolée pour ces quelques jours de retard pour ce podcast qui est le numéro donc de novembre et pas de décembre. Pour ce podcast, j'avais envie de vous parler des peintures de mort au 19e siècle. Alors, je m'explique. Nous allons, oui, bel et bien parler de littérature et non pas de peinture, mais on va voir que quelquefois les romans se prêtent à cette terminologie avec des scènes qui sont extrêmement proches de la peinture et qui ressemblent à des tableaux et précisément à des tableaux de mort. Alors, au 19e siècle, il n'est pas très surprenant que la mort soit très présente entre d'un côté le romantisme et son penchant plus obscur, le décadentisme, et de l'autre, les mouvements réalistes et naturalistes. En travaillant sur ce podcast, je suis d'ailleurs tombée sur un article traitant d'un phénomène dont j'ignorais vraiment tout, l'exposition en vitrine des cadavres dans les morgues parisiennes au 19e siècle, et ce jusqu'en 1907, précisément dans deux établissements parisiens situés sur l'île de la Cité. J'ignorais vraiment toute cette pratique qui me semble être extrêmement intéressante et sur laquelle j'aimerais me renseigner un peu plus. On peut donc voir en fait que le rapport à la mort au 19e est quand même assez particulier, avec notamment les troubles politiques, l'essor du prolétariat, la misère et les avancées médicales qui, d'une manière ou d'une autre, conduisent à considérer la mort. Les expressions et les écritures de la mort sont bien sûr différentes selon la mouvance de l'auteur ou de l'œuvre, c'est-à-dire que si on s'attache à observer une œuvre réaliste, une œuvre naturaliste ou une œuvre décadente, bien évidemment qu'on remarquera des différences de traitement. Mais la mort n'en reste pas moins omniprésente, ce qui entraîne logiquement une certaine quantité de tableaux de mort assez marquants, dont j'avais envie de venir vous parler aujourd'hui pour mettre en avant leur similitude et leur importance au-delà de la simple intrigue, mais plutôt comme un indice littéraire et esthétique. Et je m'intéresserai malheureusement, dans cet épisode, qu'au réalisme et au naturalisme. Même si j'adore ces mouvements, ça aurait été effectivement très intéressant d'élargir ce podcast, mais alors la dose de travail aurait été totalement gigantesque. Et je vais aussi me pencher sur des romans assez connus, ce qui j'espère vous plaira et vous permettra de peut-être vous repérer avec aisance dans les références littéraires. Alors, l'une des morts les plus marquantes de ce siècle en littérature est sans aucun doute pour moi, et je ne pense pas que pour moi, celle de Madame Bovary, qui, on le verra, est tout de même particulière en ce qu'elle est un suicide, et c'est d'ailleurs un phénomène qui, à lui seul, mériterait d'être étudié, ce qui sera sûrement le cas dans un prochain épisode, parce que c'est sur ma liste des podcasts depuis le tout début. Et je pense que ce qui serait également extrêmement intéressant, et j'espère pouvoir le faire, c'est faire une lecture comparée, ou en tout cas une analyse comparée d'Anna Karénine et de Madame Bovary, qui sont deux romans, à mon avis, qui peuvent se lire en miroir, comme par exemple Aurélien et Le Lys dans la vallée peuvent se lire en miroir, ou même L'éducation sentimentale. Alors pourquoi toutefois choisir de parler de la mort d'Emma dans cet épisode et pas de celle d'Anna? Pas par simple limitation géographique, mais parce que le suicide d'Emma à l'arsenic permet à Flaubert de dresser un portrait de mort comme un tableau, alors que celui d'Anna ne s'y prête pas. Et c'est plutôt justement sur ces peintures de mort que je souhaite me pencher, plus que sur le motif de la mort dans les œuvres du 19e, parce qu'alors là, encore une fois, la liste des références serait infinie presque. Et même si ça reste assez subjectif, il s'agit en plus, selon moi, d'un des plus beaux passages de l'œuvre de Flaubert, où son écriture est sensuelle, elle est presque synesthésique, et où l'ambiguïté de son rapport au personnage se fait très palpable. Elle resta perdue de stupeur et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Le sol sous ses pieds était plus mou qu'une onde et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes qui déferlaient. Tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscences, d'idées, s'échappait à la fois d'un seul bond, comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice. Elle vit son père, le cabinet de l'heureux, leur chambre là-bas, un autre paysage. La folie la prenait, elle eut peur et parvint à se ressaisir d'une manière confuse. Elle sentait son âme l'abandonner par ce souvenir, comme les blessés en agonisant sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. La nuit tombée, des corneilles volaient. Il lui sembla tout à coup que des globules couleur de feu éclataient dans l'air comme des balles fulminantes en s'aplatissant, et tournaient pour aller se fondre sur la neige entre les branches des arbres. Au milieu de chacun d'eux, la figure de Rodolphe apparaissait. Ils se multipliaient, et ils se rapprochaient, la pénétraient, tout disparut. Elle reconnut les lumières des maisons qui rayonnaient de loin dans le brouillard. Alors sa situation, telle qu'un abîme, se représenta. Elle haletait à se rompre la poitrine, puis dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva enfin devant la boutique du pharmacien. Elle regarda tout autour d'elle, lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un songe. Puis d'une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors elle se renversa la tête en poussant un soupir, et retomba sur l'oreiller. Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de sa bouche, les yeux en roulant pâlissaient comme deux globes de lampe qui s'éteignent, à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes secouées par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. Félicité s'agenouilla devant le crucifix et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que M. Canivet regardait vaguement sur la place. Bournicien s'était remis en prière, la figure inclinée contre le bord de la couche, avec sa longue soutane noire qui traînait derrière lui dans l'appartement. Charles était de l'autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur comme au contre-coup d'une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons. Elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui tintaient comme un glas de cloche. Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots avec le frôlement d'un bâton et une voix s'éleva, une voix rauque qui chantait. Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les cheveux dénoués, la prunelle fixe, béante. « L'aveugle !» s'écria-t-elle. Et Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus. Si on compare cette mort aux autres morts sélectionnées pour cet épisode du podcast, une différence apparaît assez clairement. Le dynamisme et l'action qu'on peut repérer assez facilement dans cette scène. En effet, ici, nous ne sommes pas face à une personne morte, mais à une personne en train de mourir, ce qui justifie donc un texte très marqué par l'action, comme l'indiquent aussi bien les verbes « s'écria »,« la rabattit »,« se releva », mais également toute la caractérisation frénétique, désespérée, bien fort. Il s'agit toutefois d'une action incontrôlable qui marque déjà les effets du poison et l'agonie du personnage, avec une vraie perdition de la pensée et une déchéance du corps qui ne recule devant l'horreur et le pathétique. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche, les yeux en roulant pâlissaient comme deux globes de lampe qui s'éteignent à la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes secouées par un souffle furieux comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. C'est vraiment un passage, à mon sens, qui est presque effrayant, notamment avec la dernière mention de l'âme, où on passe d'un début qui est purement physique et physiologique, avec des observations assez pointues, à une fin presque spirituelle. Et effectivement, quand on connaît le roman et quand on sait l'histoire de Madame Bovary, la mention de l'âme et potentiellement de la punition fait frémir d'une autre manière. Flaubert insère fréquemment la mort dans ses écrits. On peut penser à la mort presque géniale de Félicité dans Un cœur simple, nom qui est d'ailleurs repris dans Madame Bovary, que je ne vais pas vous lire ici car il faut à mon sens avoir lu ce conte dans son entièreté pour pouvoir apprécier la fin, mais on peut aussi penser à la mort qui est omniprésente dans L'éducation sentimentale, bien que traitée de façon très différente. Juste comme ça, quelques exemples de morts assez frappants dans L'éducation sentimentale. Il y a effectivement la mort des prisonniers qui sont enfermés et sur qui l'on tire parce qu'ils réclament du pain, où Flaubert nous parle de la cervelle qui gicle quand même. Il y a aussi le fameux alexandrin et Frédéric Béhan reconnu Sénécal, où là on voit quand Sénécal tire sur un de leurs camarades. La mort est très présente hein, dans l'écriture de Flaubert et elle est toujours traitée de manière extrêmement intéressante à mon sens. Ah, elle est changée, elle est changée, murmurait Rose Mignon, demeurée la dernière. Elle partit, elle ferma la porte. Nana restait seule, la face en l'air dans la clarté de la bougie. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue jetée là sur un coussin. Des pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre. Et flétrie, affaissée, d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe où l'on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche qu'elle tirait dans un rire abominable. Et sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulait en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri. La chambre était vide. Un grand souffle désespéré monta du boulevard et gonfla le rideau. À Berlin, à Berlin, à Berlin! Alors, autre mort célèbre que vous avez peut-être reconnue, celle de Nana à la fin du roman éponyme. Alors la mort est cette fois plus statique, elle s'inscrit donc plus dans la dimension de la représentation picturale. La mort de Nana est par ailleurs quelque peu préparée par la prolepse et la disparition du personnage dans les derniers moments du roman. C'est une fin de solitude et de désintégration dont on retrouve un mouvement plus subtil, celui des parties du corps mourant. C'est donc un mouvement plutôt parcellaire que l'on peut d'ailleurs observer dans le reste de l'œuvre, dans les moments descriptifs. C'est une petite particularité de l'écriture de Zola. On a ici par exemple un bouton touchant l'autre, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. Toute une croûte partait d'une joue envahissait la bouche. Et c'est quelque chose que Zola fait très fréquemment lorsqu'il fait des descriptions. Au lieu de s'attacher à retranscrire le mouvement en parlant du mouvement global, il parvient à retranscrire un mouvement en s'attardant sur des détails, ce qui fait qu'il y a parfois presque une impression de blason. Il va nous parler, je ne sais pas, par exemple, des épaules qui brillent, des chevelures ou des têtes qui s'inclinent. Et en fait, tout ça contribue à un mouvement qui n'est pas le mouvement d'une personne, qui sont des mouvements donc parcellaires, j'ai envie de dire. Mais lorsque l'on lit, ça provoque effectivement une impression de mouvement, d'activité qui est très subtile. Et là, on voit que c'est Nana qui est envahie en fait par la mort, mais plus que cela par la débauche, par la maladie, par l'ignominie. Ce que Zola explicite d'ailleurs à la fin, il semblait que le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple venait de lui remonter au visage et l'avait pourri. Alors ce que ces morts ont en commun, premièrement, c'est la composante visuelle. Le lecteur ou la lectrice a réellement l'impression d'être face à un tableau qu'il ou elle peut observer sans difficulté, qu'il s'agisse de l'environnement, ça c'est en raison du biais réaliste ou naturaliste, hein, mais également car les auteurs ne reculent pas devant la description très animée et minutieuse des corps jusque dans les détails d'ordinaire tue. Ils ont ainsi tous recours à une figure de style que l'on appelle l'hypotypose. C'est une figure de style qui consiste en fait à décrire une scène de manière si frappante qu'on croit la vivre. Alors, c'est un fait d'autant plus intéressant que la peinture, en l'occurrence, n'a jamais, en tout cas au XIXe siècle, pu aller aussi loin que la littérature dans la représentation de la mort, alors même que la littérature, ici, vise à l'art de la représentation. Alors, pour Zola, dans Nana, il s'agit bien sûr de lier la protagoniste à une histoire commune et politique. On a l'hérédité et le déterminisme qui sont les principes fondateurs du naturalisme tel qu'envisagé par l'auteur, qui se trouve ici poussé au paroxysme. Nana meurt car son époque se meurt et s'achève. Elle ne peut donc continuer à exister alors que s'annoncent les changements politiques en France. Elle représente en quelque sorte le régime politique et la société de son temps et se meurt alors que les autres personnages, moins investis par l'auteur et moins représentatifs, peuvent continuer malgré tout à vivre. Toutefois, c'est aussi une femme qui meurt. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Zola ne se contente pas ici d'utiliser Nana comme une forme de représentation imagée d'un régime politique. C'est ça, mais c'est aussi une femme qui meurt et c'est aussi une prostituée parce qu'on sait que Zola avait des opinions sur ça. En effet, il y a la dimension presque monstrueuse de la morte qui est sans doute à relier aux positions abolitionnistes de Zola. Zola, en bon naturaliste, hein, a beaucoup observé, côtoyé et lu au sujet de la prostitution. Et donc il a côtoyé aussi des prostituées. Et il en est arrivé à la conclusion que cette exploitation des femmes, encouragée par l'hypocrisie de la société et se terminant dans d'atroces souffrances qui sont réelles, ne pouvait pas être acceptée. D'où sa position d'abolitionniste. Et on voit ici que le vocabulaire est très médical et il y a parfois même un champ lexical de la misère qui renvoie non seulement à l'esthétique naturaliste, mais également à ses convictions et à son souhait de dénoncer cette exploitation des femmes. Pour Flaubert, la mise à mort d'Emma Bovary et la mise à mort de la pseudo-héroïne tragique avec une mise à mal psychique et psychologique, un échec d'une vie gâchée par ce qu'on appellera plus tard le bovarisme, et la réutilisation de motifs classiques ici dénaturés. On a l'aveugle, on a le mari effondré au chevet de son aimé, pardon. Tout ceci qui est couplé avec un refus de la décence et de la discrétion, avec une description corporelle d'Emma très médicale et une fin de en rythme ternaire, une convulsion la rabattit sur le matelas, tous s'approchèrent, elle n'existait plus. Dont la brièveté et la sobriété en fait semblent vouloir dire bah, ce n'était que ça. Et le choix du verbe exister me paraît également intéressant. Je n'y ai pas trouvé d'analyse très solide, mais il semble toutefois que ce verbe exister ici ajoute comme une dimension impersonnelle ou universelle peut-être à la mort d'Emma, renforcée par le pronom indéfini tous dans la phrase précédente et le choix de faire d'un mouvement involontaire, une convulsion, le sujet de la première phrase qui soumet Emma. Alors, autre auteur qu'on ne peut oublier de mentionner lorsqu'on parle de réalisme et de naturalisme, Balzac, et ben Balzac n'échappe pas à cette mode non plus, avec notamment la mort d'Henriette de Mortsauf, qui m'a, contre toute attente, arraché quelques larmes lors de ma première lecture. C'est une mort qui est toutefois un peu différente en ce qu'elle échappe à la description crue et violente de Nana ou encore d'Emma Bovary. Elle avait dépensé les dernières forces d'une fièvre expirante à parer sa chambre en désordre pour y recevoir dignement celui qu'elle aimait en ce moment plus que toute chose. Sous les flots de dentelle, sa figure amaigrie, qui avait la pâleur verdâtre des fleurs du magnolia quand elle s'en trouve, apparaissait comme sur la toile jaunie d'un portrait les premiers contours d'une tête chérie dessinée à la craie. Mais pour sentir combien la griffe du vautour s'enfonça profondément dans mon cœur, supposé achevé et plein de vie, les yeux de cette esquisse, des yeux caves qui brillent d'un éclat inusité dans une figure éteinte. Elle n'avait plus la majesté calme que lui communiquait la constante victoire remportée sur ses douleurs. Son front, seule partie du visage qui eût gardé ses belles proportions, exprimait l'audace agressive du désir et des menaces réprimées. Malgré les tons de cire de sa face allongée, des feux d'intérieur s'en échappaient par un rayonnement semblable au fluide qui flambe au-dessus des champs par une chaude de journée. Ses tempes creusées, ses joues rentrées, montraient les formes intérieures du visage et le sourire que formaient ses lèvres blanches ressemblait vaguement au ricanement de la mort. Sa robe croisée sur son sein attestait la maigreur de son beau corsage. L'expression de sa tête disait qu'elle se savait changée et qu'elle en était au désespoir. Ce n'était plus ma délicieuse Henriette, ni la sublime et sainte Madame de Mortsauf. mais le quelque chose sans nom de Bossuet qui se débattait contre le néant et que la faim, les désirs trompés, poussait au combat égoïste de la vie contre la mort. Je vins m'asseoir près d'elle en lui prenant pour la baiser sa main que je sentis brûlante et desséchée. Elle devina ma douloureuse surprise dans l'effort même que je fis pour la déguiser. Ses lèvres décolorées se tendirent alors sur ses dents affamées pour essayer un de ces sourires forcés sous lesquels nous cachons également l'ironie de la vengeance, l'attente du plaisir, l'ivresse de l'âme et la rage d'une déception. Alors ici, on est plus dans une forme de pathétique et de larmoiement romantique que dans un exercice de style naturaliste, comme le montre la préservation de l'aimé, le maintien de sa conscience et l'absence de détails corporels poussés. C'est vraiment une mort qui est, je pense, vous l'aurez entendu juste à la lecture, extrêmement différente de celle d'Emma Bovary ou encore de celle de Nana. Ici, on a vraiment la préservation de l'être aimé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'aime vraiment et qu'elle a également aimé. Il y a donc une forme de non-solitude dans la mort, ce qui contraste avec la mort d'Emma qui est abandonnée de Rodolphe et la mort de Nana qui a abandonné tout le monde sauf de Rose presque. Il y a encore des expressions mélioratives sur la personne d'Henriette, ce qui n'est pas le cas non plus pour Nana, hormis les cheveux, et pour Emma. Et on sent une forme de tendresse, bien sûr, dans la description. Toutefois, ça reste quand même un portrait de mort d'une femme sur son lit, bah, sur son lit de mort. Et quand elle fut dans son lit, ce qu'elle avait vu revint devant elle. Il y avait toujours auprès d'elle la morte horrible, ce visage effrayant dans le cadre de cette bière. Son regard avait emporté au-dedans d'elle cette tête inoubliable. Sous ses paupières fermées, elle la voyait et en avait peur. Germinie était là, avec le bouleversement de traits d'une figure d'assassinée, avec ses orbites creusées, avec ses yeux qui semblaient avoir reculé dans des trous. Elle était là, avec cette bouche encore tordue d'avoir vomi son dernier souffle. Elle était là, avec ses cheveux terribles, rebroussés, tout debout sur sa tête. L'extrait que je viens de vous lire, c'est un extrait de Germinie Lacerte des Goncourt. Alors on voit parfaitement avec cet extrait hein, que les Goncourt s'illustrent également dans la description des souffrances de la mort et de la vie des femmes miséreuses aux prostituées, que ce soit dans Germinie Lacerte, dont je viens de vous lire un extrait, ou encore dans La fille Elisa. Donc cet extrait-là de mort nous parvient un petit peu différemment, parce que nous, en tant que lecteurs-lectrices, nous y avons accès par la réminiscence d'un autre personnage. Et quand elle fut dans son lit, ce qu'elle avait vu revint devant elle. Donc on a une part de subjectivité qui vient filtrer effectivement cette description, ce qui n'est pas le cas dans les deux autres, même dans les deux premières, et ce qui est le cas dans celle de Balzac. On a aussi, mais de manière moins forte, il me semble, cette présence d'un autre personnage par lequel nous assistons à la scène. Et là, on retrouve quand même la description très violente, qui a pour but également de dénoncer en fait la vie de violence, de souffrance, de misère de ces femmes-là. On a une expression qui est assez peu usitée, il me semble, ou que j'ai rarement vue, d'avoir vomi son dernier souffle, qui est quand même assez parlante et assez violente également, et qui renvoie effectivement à la maladie, à quelque chose de dégoûtant, entre guillemets, mais qui aussi interroge sur ce dernier souffle quand on le vomit. Il y a presque une forme de rancœur, et c'est là qu'on peut s'imaginer qu'il y a également un traitement moral de la mort, ou en tout cas l'idée de pointer du doigt ces souffrances vécues par ces femmes. J'aimerais quand même faire remarquer un fait intéressant. Il n'est question ici que de mort féminine. Alors j'ai eu beau chercher dans mes souvenirs de lecture et puis également dans des sources externes, je n'ai pas trouvé de description de mort masculine du même genre. À la limite de la limite, on a le mort de Camille Lemonnier, qui est un auteur belge, mais il s'agit en fait d'un meurtre et le cadavre est rapidement éconduit. Alors que penser en fait de la quasi-féminité exclusive de ces peintures de mort? Alors il y a deux hypothèses, ou en tout cas deux pistes de réponse qu'on pourrait avancer. Premièrement, le 19e siècle, c'est un siècle de grande mutation. C'est un siècle où le féminisme apparaît. Et dans le cas de Zola, on peut aisément imaginer que ces morts agissent comme un outil empathique, voire tragique, pour dénoncer la condition des femmes de l'époque, comme par exemple avec une autre mort qui ne rentre pas vraiment dans la catégorie des tableaux ou des peintures de mort, mais que je vais quand même vous lire, c'est la mort de Gervaise. Gervaise dura ainsi pendant des mois. Elle dégringolait plus bas encore, acceptait les dernières avanies, mourait un peu de faim tous les jours. Dès qu'elle possédait 4 sous, elle buvait et battait les murs. On la chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu'elle ne mangerait pas quelque chose de dégoûtant, et elle l'avait mangé pour gagner 10 sous. Monsieur Marescot s'était décidé à l'expulser de la chambre du 6e. Mais comme on venait de trouver le père Bru mort dans son trou sous l'escalier, le propriétaire avait bien voulu lui laisser cette niche. Maintenant, elle habitait la niche du père Bru. C'était là-dedans, sur de la vieille paille, qu'elle claquait du bec, le ventre vide et les os glacés. La terre ne voulait pas d'elle, apparemment. Elle devenait idiote. Elle ne songeait seulement pas à se jeter du 6e sur le pavé de la cour pour en finir. La mort devait la prendre petit à petit, morceau par morceau, en la traînant ainsi jusqu'au bout, dans la sacrée existence qu'elle s'était faite. Même on ne sut jamais au juste de quoi elle était morte. On parla d'un froid et chaud. Mais la vérité était qu'elle s'en allait de misère, des ordures et des fatigues de sa vie gâtée. Elle creva d'avachissement, selon les mots des Lorilleux. Un matin, comme ça sentait mauvais dans le corridor, on se rappela qu'on ne l'avait pas vue depuis 2 jours, et on la découvrit déjà verte dans sa niche. Voilà, je pense que j'avais pas besoin d'expliciter la dénonciation de la misère, alors pas que des femmes, parce qu'on a effectivement le père Bru, mais Zola se concentre effectivement quand même sur la tristesse de la vie de Gervaise, non seulement parce qu'elle. Et c'est comme ça qui est assez fou, enfin, c'est pour cela que j'adore Zola, parce que pour moi c'est vraiment un homme exceptionnel. C'est que Zola, il avait compris bien avant qu'on théorise là-dessus que Gervaise, en tant que femme pauvre, elle subit une double oppression, c'est-à-dire qu'elle subit, l'oppression liée à sa classe, mais elle subit également du sexisme en fait. Et ça c'est évident quand on lit les œuvres de Zola, c'est évident. Vraiment, Zola en avait une conscience aiguë à mon avis. Et dans cet extrait, la mort de Gervaise, c'est la mort d'une femme et la mort d'une femme pauvre. Et on pourrait quand même aussi s'attarder sur le fait qu'elle meurt dans une niche, seule, qu'elle est décrite comme verte, claquée du bec. Donc il y a une forme d'animalisation qui est ici en cours, qui permet, alors bien sûr, en tant que végane, c'est pas quelque chose que voilà, j'aime dire, mais elle est comme, elle meurt comme un chien, quoi, sur. Elle crève comme un chien, seul dans sa niche. Et on sait à quel point les comparaisons ou l'animalisation en littérature a en général un sens plutôt péjoratif et permet, encore une fois, de marquer l'ostracisation de ces personnages. Alors la deuxième chose qu'on pourrait, en tout cas, supposer pour répondre à cette question sur la quasi-exclusivité, des femmes dans ces tableaux de mort, c'est que c'est pas applicable à toutes les situations, ce souci féministe ou en tout cas ce souci de décrire les conditions de vie difficiles des femmes. Et ne serait-ce qu'aux extraits mentionnés dans le podcast, en fait, on voit bien que c'est pas toujours le cas. Il faut en réalité également reconnaître la dimension potentiellement sexiste de ces écrits où la mort représente une forme de punition. Alors, dans les extraits, cela apparaît d'autant plus que la mort n'est pas le moment d'esthétiser la femme ou même d'apporter une certaine forme d'érotique, comme ça peut être le cas par exemple avec les moments d'extase ou de torture dans l'art notamment religieux, mais pas que. Au contraire, ici, la mort, c'est une forme de déchéance qui, dans la veine naturaliste ou réaliste, qui amènera par la suite le décadentisme, est décrite avec nombre de détails physiques peu ragoûtants. On cherche presque à contraster jusqu'à l'extrême la sensualité et la beauté des personnages féminins en leur ôtant dans leur dernier moment. Alors est-ce que c'est une forme de sadisme, une forme de moralisme? Je pense que les positions ici sont défendables chacune à leur manière et qu'il faut vraiment faire au cas par cas en connaissant très bien les auteurs, leur position sur les sujets et le contexte dans lesquels ont été écrits ces œuvres. Alors, dernière petite piste peut-être de réponse qui, elle, serait un petit peu plus à rechercher. On peut peut-être voir en fait dans ces tableaux de mort une résurgence, peut-être et sûrement involontaire, hein, de topoï romantique où la femme finit par mourir parce que objet de passion et de tourment. Alors chez Flaubert, hein, ne lui en déplaise, cela est particulièrement questionnable en raison de l'ambivalence de son écriture et d'inspiration. Parce que Flaubert, quoi qu'on en dise, il y a des relents de romantisme, hein, dans ses œuvres qui sont quand même assez évidents. Chez Zola ou Balzac, dont les productions sont en réalité assez éclectiques en termes de mouvance, on peut également s'interroger. Par exemple, Zola, c'est quand même quelqu'un qui a écrit Le Rêve. Donc on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas effectivement cette résurgence d'un topoï romantique. Voilà. Alors, juste pour finir, j'avais envie quand même de vous donner quelques éléments de comparaison et je vais donc vous donner la mort d'un protagoniste masculin. Pour commencer, un protagoniste de Maupassant, dans Fort comme la mort. On nous dit qu'il meurt détendu, impassible, inanimé, indifférent à toute misère, apaisé soudain par l'éternel oubli. Donc on a bien là une mort extrêmement différente de celle que connaissent les femmes. On peut encore citer celle du père Goriot, qui, bien que l'objet d'une longue description, hein, ne présente pas réellement une agonie physique, et les éléments de caractérisation sont d'ailleurs peu nombreux. Mais on voit ici plutôt une grande souffrance émotionnelle, ce qui le range dans une catégorie quand même d'être un peu plus louable, auquel on peut plus s'identifier et pour qui on éprouve un sentiment plus de compassion que de pitié, voire de pitié un petit peu dégoûtée, comme ça peut l'être pour ces femmes-là, au vu des morts que l'on décrit. Donc voilà ce qu'on nous dit sur le père Goriot. Trompé sans doute par les larmes, Goriot usa ses dernières forces pour étendre les mains, rencontra de chaque côté de son lit les têtes des étudiants, les saisit violemment par les cheveux et l'on entendit faiblement: Ah, mes anges! Deux mots, deux murmures accentués par l'âme qui s'envola sur cette parole. Alors là, c'est intéressant quand même de faire le parallèle, c'est-à-dire que l'âme d'Emma secoue les côtes en essayant de s'échapper. Donc il y a là presque un côté. Presque une forme. C'est quelque chose qu'on pourrait presque lire dans une scène d'exorcisme. On sent bien là qu'il y a un réel mal-être, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, avec cette âme, tandis que l'âme du père Goriot, elle s'envole sur cette parole, et les paroles en plus, c'est quoi? C'est mes anges. Donc le contraste est également assez saisissant. Enfin, dans l'œuvre de Zola, on a aussi la mort de Claude, qui est un suicide et qui échappe alors à toute description graphique. Alors, attention, hein, il ne s'agit pas de dire ici que les morts sont douces et choisies par les hommes dans les romans naturalistes et réalistes, pas du tout. Il s'agit plutôt de montrer la différence d'écriture et de traitement de la mort selon le sexe des personnages, ce qui est assez indéniable à mon sens. Donc je voudrais ainsi finir ce podcast avec quelques considérations plutôt méthodologiques, en fait. On me pose quelquefois la question suivante. Pourquoi continuer à lire tant d'auteurs masculins? Pourquoi ne pas me tourner exclusivement vers des autrices? Pourquoi aimer des mouvements qui sont à certains égards empreints de représentations stéréotypées et normées? Puis de l'autre côté, on m'accuse aussi de dénaturer les œuvres, d'échouer en analyse littéraire, car imprégnée de concepts contemporains et donc anachroniques. Alors ma position, en fait, est la suivante. Dans ce podcast, je pense avoir présenté des extraits en respectant le contexte et les possibles intentions des auteurs. Je pense aussi avoir fourni, autant que le permet ce format, une petite analyse littéraire non tirée par les cheveux ou hors sujet. Mais je pense aussi intéressant et important de souligner la prépondérance du féminin dans ces tableaux de mort, de s'interroger sur les causes de ce phénomène, d'esquisser l'ébauche d'une étude comparatiste, entre mort masculine et féminine. C'est donc la façon de faire qui me correspond. Contextualiser, distinguer, critiquer, formuler des hypothèses et élargir le cadre de mes analyses. Si je m'en tenais à la littérature pure, j'en oublierais l'émergence du féminisme au XIXe, j'en oublierais la place de la prostitution dans la société, et je pourrais tomber dans le piège de cataloguer ces réflexions comme anachroniques alors qu'elles ne le sont pas. Si j'étais à l'opposé moins informée en termes de littérature, en termes de vie et position des auteurs, il serait facile de faire un gigantesque contresens et d'imaginer Zola comme un sale misogyne. Je n'ai envie de tomber dans aucun de ces travers. Donc je m'arrêterai là en espérant avoir été assez claire sur mes démarches, mes positions vis-à-vis de la littérature et la littérature comparée et des analyses littéraires. J'espère que ça nous permettra de, voilà, peut-être d'échanger à ce sujet. Peut-être que ça vous permettra aussi de mieux comprendre comment dire, la nature du contenu littéraire que je peux produire. Et j'espère que ça aura été satisfaisant. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet épisode du podcast parce que le sujet me passionne et j'aurais vraiment adoré l'élargir au romantisme, au décadentisme, mais la dose de travail, comme je vous l'ai dit au début, aurait été vraiment trop importante. Alors peut-être une prochaine fois, si cet épisode vous a plu, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et on pourra reparler de la mort dans le romantisme, de la mort dans le décadentisme, comparer encore une fois la mort des femmes, la mort des hommes, etc. Ça pourrait être extrêmement intéressant et alors surtout dans le romantisme parce que là, il y a énormément à dire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos réactions sur Instagram, mon Instagram littéraire, Anastasia Lee, donc Anastasia et puis L-I-T, comme pour Anastasia Lee ou Anastasia Lit pour littérature en anglais ou en français, on va dire. N'hésitez pas à partager ce podcast également à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par de la littérature sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui fait vivre ce podcast et c'est ce qui me donne envie de continuer, c'est de le partager avec le plus de personnes passionnées ou intéressées que possible. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à aller jeter un coup d'œil à mon Patreon. Tous les liens, de toute manière, seront sur mes réseaux sociaux. C'est un financement participatif, un petit peu, on va dire. En tout cas, c'est une forme de soutien financier mensuel avec 1 euro. Par exemple, par mois, vous pouvez m'aider à continuer à fournir du travail et du contenu littéraire de qualité et varié. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite pour la prochaine fois.